plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Après avoir mené la vie dure à Monique, et ce, malgré la perte de leur premier enfant, Ebinto, frappé par un palud sévère, se montre plus tendre et souple vis-à-vis de la jeune femme. Un jour, partie en ville pour des achats, Monique ne revient pas au campement où elle vit avec Ebinto. En lieu et place de son retour, elle fait parvenir à ce dernier, par le canal du chauffeur du véhicule de transport en commun, une lettre. Ebinto, tout tremblant et anxieux, prend connaissance du contenu de la lettre, ou plutôt du journal intime de Monique, dont la rédaction avait débuté depuis plusieurs mois déjà à l'insu d'Ebinto. Retrouvez dans la lecture radiophonique de ce jour de la troisième partie du roman Les phrases d'Ebinto de l'écrivain ivoirien Amadou Koné, la voix de Sonia Nzian dans le rôle de Monique, et la voix de Aoussi Potin dans celui de Ebinto. Bonne écoute de notre lecture radiophonique de ce jour dans le cadre de votre espace culture livresque sur Radio de la Paix, plaisir de lire.
Les frasques d'Ebinto. Troisième partie, une sorte de réveil. Chapitre 1.
La lettre que Monique m'avait envoyée était une sorte de journal tenu au jour le jour. Il n'y avait pas de date à l'en-tête des chapitres, mais tous les faits étaient narrés selon un ordre chronologique rigoureux. Sur ces pages, Monique essayait d'analyser sa passion pour moi, ses aspirations secrètes et ses déceptions. Elle livrait ses sentiments durant cette partie de sa vie où j'étais d'abord apparu comme un prince charmant, puis comme un bourreau.
Et bientôt, chérie, quand cette lettre te parviendra, j'aurai mis à exécution la décision la plus grave de ma vie. Je serai partie. Ces lignes, je les ai écrites au fil des jours passés auprès de toi. Pourtant, ce n'était pas dans l'intention que tu les lises un jour. Je me disais que tu pourrais les lire après ma mort. Aujourd'hui, je suis partie. C'est comme si j'étais morte. Et c'est pour cela que je t'envoie cette espèce de journal. Il vaut mieux te le dire tout de suite. Tu ne m'as jamais comprise, Ebinto. Toi seul à qui j'avais cru pouvoir confier mes joies et mes peines. Une dernière fois, j'essaie de t'ouvrir les yeux en te livrant mon cœur aussi sincèrement que possible. Je vais remonter très loin dans le passé. Je vais remonter au jour où tu arrivas à Bassam pour la première fois. Tu faisais alors la classe de 6e et moi, le cours moyen 2e année. J'étais encore une petite fille, ignorant même jusqu'au mot « amour ». Dans la cour de mon père, nous nous amusions sur le sable comme un garçonnet et sa sœur. Près de toi, je me trouvais bien, étrangement bien. Je me sentais protégée par toi et j'étais fière de marcher à tes côtés. Ce que j'éprouvais pour toi, c'était une admiration, une estime profonde. Dès ce moment déjà, tu étais à moi. Pendant 3 ans, nous avons vécu presque ensemble, continuant toujours à jouer. Pourtant, nos jeux n'étaient plus les mêmes. Tu ne me prenais plus à califourchon comme un bébé. Nous ne luttions plus sur le sable. Nous avions grandi et commencions à être sérieux, à penser profondément. Nos jeux n'étaient plus source de joie spontanée et éclatante, mais étaient faits de paroles douces, quelquefois de sous-entendus qui nous faisaient baisser les yeux ou même d'un merveilleux silence dans lequel chacun de nous se plaisait à imaginer les pensées de l'autre. Je crois que ce fut au début de la troisième que toute la vérité se fit jour dans mon esprit. Je me rappelle encore ce soir où tu me dis
« Bonjour Monique, comme tu es jolie !»
J'étais heureuse que tu eusses remarqué cela parce que je savais que tu allais me traiter désormais comme une jeune fille et non comme une gamine. Moi, je te croyais déjà un homme. Et quand le dimanche je regagnais Abidjan, après vous avoir rendu visite, j'étais obsédée par ta pensée. La nuit, je n'arrivais à dormir qu'après avoir longuement pensé à toi. Les idées que je me faisais n'étaient plus celles d'une gamine, crois-moi. Elles étaient celles d'une jeune fille amoureuse. Je t'aimais. Telle m'a paru la réalité. J'étais fière de cet amour dont je te trouvais digne. Mon Dieu! Comment ne pas me rappeler ces doux souvenirs? Seul beau ornement de ma vie, je rêvais à notre vie future. Je croyais que j'avais rêvé d'une simple vie où l'argent n'aurait aucune importance et où l'amour profond de deux êtres sincères dominerait toutes les difficultés auxquelles tout ménage est en butte. Près de toi, j'avais espéré la compréhension, une affection que mon père, veuf aigri, n'avait jamais pu me donner. J'avais cru au bonheur. J'avais une totale confiance en l'avenir et mes désillusions n'allaient être que plus amères. Le samedi soir, quand je venais à Bassam, tu te montrais gentil à mon égard et je croyais à ton amour. J'étais aveugle et j'ignorais que ma passion était à sens unique. Mais toi, peut-être déjà voyais-tu en moi cet intense besoin d'être aimé. Dis-moi, Ébain, est-ce pour une jeune fille une faute que d'aimer et de désirer l'affection de l'être chéri? Enfant, j'étais de ceux qui acceptent le reste après le partage des cadeaux. Enfant, je n'ai pas eu le loisir d'être capricieuse. Enfant, j'ai même accepté ce que l'on accepte rarement. Orpheline de mère dès ma naissance, nantie d'un père négligent, j'ai été livrée très tôt à l'école de la vie. Dans la souffrance, je n'ai pas éprouvé le besoin de me révolter. Contre qui me révolter? Personne n'était cause de mon infortune. Dans la souffrance, j'ai appris humblement, dignement. Tu sais, j'ai fait un pari, celui de gagner dans la vie par mon travail. Toi, tu étais apparu dans mon existence comme un soutien solide, garant de la réussite, du bonheur. Tu avais fini par devenir tout mon univers. Je me sentais célestement lié à toi et je ne pouvais pas imaginer que tu ne m'aimasses pas. Il était inimaginable que ta vie se détachât de la mienne et la pensée que tu fusses un jour à une autre ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Et pourtant, à un moment, je te trouvais triste. Ton ami Koula m'apprit que tu étais amoureux d'une autre fille, Muriel. Oh, et bientôt, as-tu jamais imaginé l'être aimé? Si jamais tu as une fois aimé, dans les bras d'une autre personne, as-tu jamais senti ce coup de poignard qui pénètre alors dans le flanc frémissant et saigne le cœur? Ton cœur n'a donc jamais été pressé par les gifles acérées de l'affreuse jalousie? Oh, et bientôt, tu ne peux pas imaginer combien ma blessure a été cruelle de savoir que ton cœur n'était pas tout à moi et que tu l'offrais désespérément à une autre. Combien de fois dans une petite chambre d'internat ai-je pleuré de me savoir trahie comme une femme mariée? Et pour une fois, j'ai refusé qu'on se serve à mes dépens. J'ai décidé de lutter pour défendre mon amour. J'ai essayé de conserver mon calme, de te faire comprendre que je t'aimais et que nous deux, nous nous complétions pour faire un tout plein de force capable de réussir n'importe quoi. Je t'ai fait comprendre que j'avais besoin de ton amour, de ton affection, de ta protection et j'étais dépité de voir que tu me regardais simplement avec compassion. J'ai cherché tous les moyens honnêtes de te faire comprendre où était ton intérêt pour te lier à moi. Tu te trompes vraiment, Ebinto. Si tu crois que j'avais trouvé la solution du problème dans les rapports sexuels entre toi et moi, crois-moi ou bien doute de cela aussi, comme tu as toujours douté de moi d'ailleurs. Cette nuit-là, je n'avais aucune idée derrière la tête quand je suis entrée dans ta chambre. Je n'ai pas fait exprès de te provoquer tout comme je n'avais pas fait exprès de t'aimer. Quand tu t'étais réveillée, tu m'avais regardée intensément et pour la première fois, j'avais cru lire dans tes yeux l'assurance de ton amour pour moi. J'avais compris plus tard que ce n'était que du désir. Cette nuit fatale, je n'ai pu te résister. D'ailleurs, pourquoi t'aurais-je résisté? J'avais cru être à toi. J'étais une chose que tu pouvais prendre à volonté. Je n'avais jamais pensé à une conséquence quelconque de notre nuit d'amour. Et pourtant, il est arrivé un moment où je ne me sentais pas bien. Je consultais le docteur. Il me dit que j'étais en état de grossesse. Dans mes rêves, j'avais bien entendu désirer un enfant, surtout de toi. J'imaginais avec quel bonheur je caresserais ce petit être, fruit de mon amour, sorti du plus profond de moi-même. Mais bientôt, je ne désirais pas un enfant à cette époque de ma vie, crois-moi. J'ai compris tout à coup que notre situation était plutôt tragique. Brusquement, il m'était apparu que notre vie d'enfance était finie, nos études gâchées, nos ambitions devenues des chimères. Nous étions obligés de faire face à une situation que le hasard avait créée. Je savais que tu allais souffrir. Et je n'eus d'abord de peine que pour toi. Après, j'eus le temps de me plaindre moi-même. À Bassam, quand on fut au courant de mon état, on me regarda avec dédain. J'étais une fille dégradée et mes amis même se trouvaient mal à l'aise en ma compagnie. Il fallait essuyer les allusions pleines de sarcasme, les commérages de vieilles femmes à l'affût de scandales. J'ai essayé de conserver ma dignité. Je me suis moquée de toutes les mesquineries. Un seul côté de ma propre situation m'inquiétait. À peine sortie de l'enfance et plongée dans l'adolescence, je devais immédiatement me considérer comme une femme et faire face aux multiples problèmes qui se posent à une jeune maman. Mais j'avais foi en toi, j'avais de l'espoir. Car je croyais à l'amour, vainqueur de toute adversité. Tu allais me protéger, tu allais m'aimer, et cette pensée suffisait à me consoler de ma peine. Oh, Ebinto, c'est à peine si tu n'as pas nié être le père de mon enfant. Oui, j'en arrive maintenant aux souvenirs les plus récents et les plus cruels, ceux de notre vie commune. Je ne suis pas venue chez toi sans honte. J'avais l'air d'une fille qui voulait se faire aimer à tout prix. Mon père t'avait contraint à m'épouser. Je ne pense pas que j'ai tiré du bonheur de cette espèce de chantage. Au contraire, mon amour propre en a cruellement souffert. Moi aussi, j'ai été contrainte par la force des choses. Mon père m'aurait chassée de chez lui si je refusais de t'épouser. Où serais-je allée? Je ne connaissais personne à part lui et toi. Mais, cher Ebinto, je ne serais pas venue à Akunube si je n'avais pas eu la certitude que tu m'aurais aimée, si je n'avais pas cru au bonheur près de toi. Ah, le mariage! Il m'avait surprise, mais j'étais arrivée à en avoir une certaine idée. Il m'apparaissait comme un pacte dans lequel chacun des deux conjoints s'engage à comprendre l'autre en toutes circonstances et à lui pardonner si possible. Un pacte où la vérité doit subjuguer les discussions mesquines, où l'amour seul doit triompher. Notre union, à nous deux, devait être quelque chose de bien particulier. Elle m'apparaissait comme un salut pour nous, une nécessité primordiale pour gagner notre pari avec la vie. L'heure n'était surtout pas au découragement, mais à la lutte la plus difficile, la plus âpre. Mais très tôt, l'atmosphère de notre foyer m'a montré qu'il n'y avait pas de bonheur possible malgré ma bonne volonté. Je te sentais malheureux, comme humilié devant cette vie que tu étais si sûr de dominer. Et puis toi, le garçon équilibré, que j'avais cru connaître, toi, l'homme merveilleux, l'incarnation de mon idéal, tu as fini par te montrer vulgaire et cynique à mon égard. Tu m'as même fait comprendre que je n'avais droit qu'à ton mépris. Comment mon ébento pouvait-il se métamorphoser ainsi? Je suis pourtant arrivée à t'excuser. Je m'étais rendu compte que j'avais épousé un garçon à l'imagination débordante et dont la vie n'était qu'une suite de frasques. Tu manquais trop de réalisme. Il fallait attendre que tu mûrisses avec le temps. Patiemment, j'ai attendu, accusant ton animosité avec sang-froid. Mais tu as exagéré Ebento. Non content de me faire souffrir moi-même, Ebento, tu as tué mon enfant. Oh, comme j'aurais voulu avoir encore ce petit être sorti de mon ventre. Peut-être m'aurait-il aimé. Au moins, il se fût laissé aimer et n'eût pas accueilli ma tendresse avec mépris. Quand tu as prononcé ces mots fatidiques, tu ne le verras jamais, il est mort. J'ai compris que c'était la fin de tout. Vraiment, l'extrême. Il ne pouvait plus rien m'arriver de pire. Pendant ces quelques mois de vie commune, le projet de partir s'est quelquefois imposé à moi. Oui, j'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint m'effleurer. Mais j'ai toujours repoussé cette idée. D'abord, je pensais qu'il était de mon devoir de t'aider à retrouver ton équilibre, à guérir. Et il y avait en moi ton enfant. Que pouvais-je faire pour lui, moi toute seule et sans aide? Et puis, si je ne m'en suis pas allée, c'est parce que j'ai peur. Je n'ai pas honte de te le dire. La solitude me fait peur et je n'ai plus personne. Je n'aurais jamais eu le courage de partir si tu ne me l'avais pas demandé. Tu m'as dit, tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi, Monique. Tu voulais que je m'efface. Tu n'avais pas besoin de moi. D'ailleurs, personne n'a jamais eu besoin de moi. Tu sais, je pars et je mourrai bien vite maintenant. Je n'ose pas penser à ce qui se passera quand je serai morte. Il ne se passera sans doute rien. Je m'effacerai comme si je n'avais jamais existé, n'ayant occupé aucune place dans le cœur de personne. Je m'engloutirai dans le néant avec mes désirs inassouvis et tes injustes reproches. J'espère que tu ne me regretteras pas. Ne me regrette pas. Ne me plains pas. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Et bientôt, je te le dis très sincèrement, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, non pas par charité, mais par faiblesse. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer et je me méprise de ce fait. Vois-tu, il est des personnes que le mépris de l'être aimé blesse profondément et peut conduire au suicide. Je crois que je suis de celle-ci. Il en est d'autres que le mépris de l'être aimé révolte avec une violence terrible et peut conduire au crime. J'aurais voulu être de celle-là. J'aurais voulu faire des folies pour que tu comprennes la violence de ma passion. Mais j'ai toujours pensé que la révolte, la violence, résolvait moins les problèmes que la douceur. Là aussi, je me suis trompée. J'ai fini par croire d'ailleurs que je me suis trompée sur tous les problèmes de la vie. Je te souhaite, Ebento, d'être heureux avec une femme que tu aimes vraiment. Muriel, ou peut-être une autre, qu'importe. Voilà, j'ai fini cette lettre que j'ai voulu une ultime explication. Adieu, Eda, Monique.
Doucement, j'ai replié la lettre de Monique. J'ai passé le revers de ma main sur mon front moite de sueur et les larmes me sont tombées des yeux sans que je m'en sois rendu compte. La vie me faisait pleurer car je reconnaissais ma défaite vis-à-vis de l'existence. J'ai pleuré de me savoir plus méprisable que Javert et Thénardier pour m'être acharné lâchement sur une jeune fille qui avait commis le crime de m'aimer follement. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Longtemps, j'avais soutenu la célèbre idée de Vigny, mais maintenant, je comprenais que l'on pleure parce qu'on ne peut s'en empêcher. Et pleurer quelquefois console. Comment allais-je donc m'y prendre pour retrouver Monique et me faire pardonner? Soudain, Monique semblait avoir pris une place immense dans mon cœur. Je comprenais cet amour violent de la jeune fille, amour que j'avais toujours blessé. Comment penser ces profondes blessures que j'avais pris un malin plaisir à aggraver jour après jour? Je me sentais indigne de Monique au moment même où j'avais compris que mon univers, c'était elle. Muriel, je l'avais bien oublié. Je ne me souvenais pas de l'avoir aimée. Oh, absurdité de la vie! Comment peut-on croire qu'il est un être conçu à notre mesure, près de qui seulement nous trouverions le bonheur? Imagination, tu nous mènes tous dans la misère après avoir entretenu en nous des images irréelles et trompeuses. Que de peine nous éviterions si nous prenions chaque être pour ce qu'il est et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. L'enfer que j'avais vécu n'eût été qu'un paradis si j'avais estimé Monique à sa juste valeur et n'avais pas voulu chercher en elle les perfections imaginaires que j'accordais à Muriel. Ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance. Puis, qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie m'eût donnée. J'en étais conscient maintenant et peut-être était-il trop tard.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Pota, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.